le patriarche Bartholomée aujourd'hui est dans une volonté de vouloir accélérer les choses et de faire en sorte que ce concile puisse advenir. Je pense qu'il se considère comme étant le patriarche, et il peut certainement rentrer dans l'histoire à ce titre-là, le patriarche ayant réussi à convoquer le concile panorthodoxe. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est devant les différentes inerties, devant les lenteurs du fonctionnement même de l'Église orthodoxe, y arrivera-t-il? Ça, c'est la question, mais en tout cas, sa volonté est ferme. Il l'a d'ailleurs rappelé lorsqu'il est venu en France en janvier 2014. Il l'a rappelé en disant qu'il tenait à ce que le concile puisse se réunir rapidement. Aujourd'hui, le patriarche œcuménique Bartholomée, lorsqu'il convoque les différents primats des églises orthodoxes à venir au Phanar, il le fait au titre même de cette primauté, c'est-à-dire non seulement le fait qu'il est le primus inter pares, le premier parmi les égaux, mais qu'en même temps, en tant que premier, il a la responsabilité de pouvoir mettre toutes les forces de l'Église orthodoxe en dialogue et porter ainsi l'initiative et la nature synodale même de l'Église.
Alors cet œcuménisme inter-orthodoxe pose aussi la question de l'œcuménisme plus large. Est-ce que l'Église catholique est invitée? Est-ce qu'elle pourrait avoir des observateurs dans ce concile? Est-ce qu'elle est associée à certains travaux de préparation?
Alors là, au point où en est le travail préconciliaire, je ne pourrais pas vous dire, mais il semble que se profile effectivement une association. Alors après, on verra selon la nature d'observateur ou pas observateur. Les choses vont se définir avec le temps, mais il est certain en tout cas que les travaux du concile panorthodoxe devront prendre en considération les relations bilatérales avec l'Église catholique. On pourrait même penser que le concile panorthodoxe devra lui aussi porter un message sur l'avancée des relations entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes. L'Église catholique et l'Église orthodoxe sont très proches dans l'exercice du dialogue et s'apprête, notamment avec le renouvellement à la tête de l'Église de Rome et l'arrivée du pape François, s'apprête à rentrer, dirons-nous, dans une nouvelle phase.
Et cette nouvelle phase, justement, quelle est la perception du pape François par les orthodoxes?
Elle est assez positive. Il faut dire que Benoît XVI aussi avait bonne presse parmi les orthodoxes, dans la mesure où il a été un grand connaisseur de la théologie patristique. Le pape Benoît XVI, oui, avait été très proche aussi de celui qui avait porté initialement le processus conciliaire, le métropolite de Suisse, Damaskinos Papandréou. Et on voit qu'il y a, d'une certaine manière, un prolongement assez naturel qui se fait dans la perception que les orthodoxes ont du pape entre Benoît XVI et François, pour des raisons totalement différentes. François, par sa simplicité, par son ouverture, et puis aussi, ne le cachons pas, il y a un tout petit peu de chauvinisme derrière tout ça, par les références que le pape François a pu faire à tel ou tel moment du fonctionnement de l'Église orthodoxe, notamment concernant la conciliarité, la synodalité, pour lequel le pape François souhaite associer plus généralement l'épiscopat dans des réflexions ecclésiologiques plus larges.
Parlons maintenant d'éléments d'actualité chaude, brûlante. D'abord, les révolutions arabes. Est-ce que finalement ces événements, ricochet, paradoxalement, ils ont permis de ressouder les patriarcats orthodoxes et de relativiser un peu les divergences, puisque là finalement tous sont d'accord pour dire que cette déstabilisation politique est dangereuse pour tous les chrétiens d'Orient?
Tous sont effectivement d'accord pour le dire et je pense qu'il y a un véritable consensus qui aujourd'hui traverse les différentes églises orthodoxes pour dire que en tout cas pour ce qui est de la crise syrienne, qui est encore une crise prégnante dans les relations internationales, de dire qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse et il faut que, lorsque une solution pérenne et pacifiée sera trouvée, que les chrétiens puissent trouver une position, une place particulière dans les sociétés démocratiques qui vont se reconstruire sur ce terreau de paix. Pour autant, nous voyons que ce contexte difficile d'affrontement au Moyen-Orient n'a pas réglé tous les différends qui pouvaient exister entre les patriarcats. J'en citerai un notamment. Il s'agit de savoir qui des patriarcats d'Antioche et de Jérusalem a la juridiction sur le Qatar. Et aujourd'hui, la question du Qatar est une vraie pierre d'achoppement dans les relations entre les deux patriarcats de Jérusalem et de Damas. Donc effectivement, le contexte de la crise du monde arabe va porter une certaine forme de solidarité instinctive entre les patriarcats. Pour autant, cela ne règle pas tous les contentieux.
Autre sujet de conflit encore plus brûlant, évidemment, l'Ukraine. Est-ce que cette question ukrainienne peut venir ouvertement sur le tapis entre les patriarcats orthodoxes? Est-ce qu'elle les préoccupe tout le monde? Et est-ce que les liens du patriarcat de Moscou avec la présidence russe inquiètent effraie certains? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation politique du sacré?
À vrai dire, il y a toujours eu, comment dire, une fusion ou une proximité entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel en Russie qui ne permettait pas forcément de faire bien la part des choses, pour ne pas parler d'instrumentalisation. La question ukrainienne est extrêmement complexe, d'abord parce que l'Ukraine est un pays diversifié. Le paysage chrétien est en lui-même extrêmement hétérogène entre des communautés gréco-catholiques d'une part, des communautés de l'Église orthodoxe, du patriarcat orthodoxe d'Ukraine, qui est en fait un schisme de l'Église d'Ukraine relevant du patriarcat de Moscou, et l'Église ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou. Et je ne cite même pas la présence d'autres catholiques ou d'autres confessions protestantes, mais on voit déjà qu'il y a une très grande diversité à l'intérieur même de ce groupe de chrétiens. Et évidemment, la récupération politique de ces divergences confessionnelles sont préoccupantes dans la mesure où elles ne permettent pas de voir comment vont s'articuler aujourd'hui, au moment où on ne sait toujours pas quelle va être la sortie politique de la question ukrainienne. On ne voit pas très bien comment les chrétiens, dans leur divergence, seront susceptibles de pouvoir servir l'unité de l'Ukraine. La contorsion aujourd'hui dans laquelle les chrétiens sont en train de se placer risque de ne pas favoriser un climat apaisé. Le point de départ de l'orthodoxie dans le monde slave, c'est Kiev et c'est le baptême de la Rousse en 988. Donc effectivement, il y a un attachement non pas tant à l'Ukraine en tant qu'État ou en tant que nation, mais à l'Ukraine en tant qu'espace culturel et qu'espace spirituel où s'est construit à travers les siècles depuis un millénaire l'identité slave orthodoxe.